est 17h à Paris, une heure de moins en temps universel.
Clotilde Dumay.
Dans l'actualité, le début du Salon de l'agriculture à Paris, inauguré ce matin par le président français. Visite un peu moins tendue que l'an dernier pour Emmanuel Macron. 6 otages détenus par le Hamas de retour en Israël aujourd'hui, alors que la libération de centaines de prisonniers palestiniens se fait toujours attendre. Des manifestants réunis à Londres en soutien à l'Ukraine après bientôt 3 ans de guerre contre la Russie. Kiev qui refuse pour l'instant toujours de signer un accord avec Washington sur les minerais stratégiques de l'Ukraine. Explication dans ce journal. La traditionnelle déambulation dans les allées du Salon de l'agriculture à Paris, elle avait été chaotique l'an dernier. Le président français se prête de nouveau à l'exercice depuis ce matin, rencontre avec les syndicats, puis avec les agriculteurs et les passants, dans une ambiance cette fois-ci un peu plus détendue. Reportage de Valérie Gasse.
Rien à voir avec l'ambiance de guerre de tranchées de l'année dernière. Aujourd'hui, le chef de l'État mène sa visite tranquillement. Il est vrai, avec un dispositif de sécurité assez impressionnant qui maintient la foule des visiteurs à distance. Et le président semble profiter du moment.
Comment ça va ?
Bonjour, ça va et vous ?
Ça fait plaisir de vous voir.
Surtout quand il déguste de la saucisse.
Vous faites quoi, là ? Vous la séchez ?
C'est assez simple.
Mais au détour des stands, Emmanuel Macron est toujours confronté à l'expression du désespoir de certains agriculteurs.
On a abandonné le monde agricole pendant trop longtemps. Bon, l'histoire, c'est la même que d'autres. J'ai retrouvé mon père avec une balle à la tête.
Je sais.
Et ça, je veux plus que ça se produise.
La loi d'orientation agricole vient d'être votée, mais le secteur reste en crise et les contraintes environnementales mal vécues. Une mesure a été prise pour calmer leur colère, la dépénalisation des atteintes à l'environnement involontaire, mais elle est critiquée par les écologistes. Le chef de l'État l'assume.
Mais je pense qu'il faut entendre le message de beaucoup d'agriculteurs qui ne peuvent plus accepter d'être traités comme des délinquants.
Comment réussir la transition écologique lorsqu'on
peut
de dépénaliser les atteintes à l'environnement lorsqu'elles sont pas faites exprès?
Parce que, il faut accompagner les gens avant de taper. Et ensuite, quand on sanctionne, on peut le faire dans le civil et pas dans le pénal.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron espère apaiser les agriculteurs. Valérie Gasse avec Diego Tenorio et Julien Boileau au Salon de l'agriculture.
Emmanuel Macron, qui a aussi affirmé sa confiance envers son Premier ministre, François Bayrou, affaibli par l'affaire Betarame, accusé d'avoir été informé des violences physiques et sexuelles qui auraient eu lieu dans cet établissement scolaire catholique. Il a finalement été arrêté en Roumanie. Le ministre de l'Intérieur français annonce sur X l'arrestation du narcotrafiquant Mohamed Amra. Il s'était évadé en mai 2024 après une attaque de fourgon au cours de laquelle 2 agents pénitentiaires ont été tués, 3 autres blessés. Mohamed Amra est soupçonné d'avoir commandité des meurtres alors qu'il était en détention. Emmanuel Macron salue un formidable succès. Le ministre français des Outre-mer, lui, pris à partie par des manifestants loyalistes au premier jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls doit y rester 1 semaine pour rencontrer les acteurs politiques, économiques et associatifs de l'archipel. Les loyalistes dénoncent les récentes déclarations médiatiques du ministre qui affirmait que les accords de Nouméa s'imposaient, accords qui sont censés mener à une souveraineté pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie. Plus de 600 prisonniers palestiniens toujours pas relâchés par Israël. Ils doivent être libérés aujourd'hui après le retour de 6 otages détenus par le Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui a accusé il y a quelques minutes l'État hébreu de mensonges concernant la mort des enfants de la famille Bibas. Leur corps a été rendu à la famille cette semaine. Selon Israël, ils seraient morts en captivité alors que le Hamas avait indiqué qu'ils avaient été tués dans un bombardement israélien. La dépouille de la mère des 2 enfants a également été restitué à la famille Bibas alors qu'un premier corps rendu par le Hamas ne correspondait pas à son identité. Des centaines de personnes rassemblées à Londres devant l'ambassade de Russie, presque 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe. Les manifestants veulent montrer leur soutien à l'Ukraine alors que les discussions pour une éventuelle paix se sont accélérées entre Washington et Moscou. Un reportage à Londres d'Emeline Vin.
Fin à l'occupation, Russie dehors, scandent des manifestants devant l'ambassade de Russie. Pour Alicia, soutenir l'Ukraine, c'est aussi défendre la sécurité du reste de l'Europe.
Trump est en train de vendre l'Ukraine, c'est effroyable. Si Poutine réussit à obtenir quoi que ce soit, c'est un message terrible pour le reste du monde. Je ne sais pas si Trump entendra, mais j'espère que notre gouvernement nous écoutera. Il ne faut pas céder.
Juste à côté d'elle, Tony, tournesol à la main, estime que le Royaume-Uni a un rôle à jouer. D'ailleurs, le Premier ministre Keir Starmer sera à Washington cette semaine.
J'espère que Starmer sera clair avec Trump. Il aura l'air d'un lâche s'il autorise Poutine à gagner et il sera vu comme un amadoueur.
Dans le cortège de nombreux Ukrainiens, arrivés pour certains bien avant la guerre, pour Sacha, originaire de Kherson, Keir Starmer ne peut pas tout non plus.
Même si on soutient l'Ukraine, il faut penser politique, économie. Alors je comprends que Starmer essaie plutôt de se poser en médiateur et tente de désamorcer la situation.
Ne nous oubliez pas, implore la jeune maman, même si la guerre dure depuis 3 ans déjà. Emeline Van, Londres, RFI.
Le Premier ministre britannique réaffirme avec la présidente de la Commission européenne la nécessité de garantir une paix juste et durable en Ukraine. Keir Starmer et Ursula von der Leyen ont échangé par téléphone. Ils ont également convenu, selon le porte-parole de Downing Street, que l'Europe devait s'engager pour le bien de la sécurité collective européenne. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio appelle les pays membres des Nations Unies à approuver une résolution proposée par Washington. Une résolution qui demande une fin rapide du conflit et appelle à une paix durable entre Kiev et Moscou, mais qui ne mentionne pas le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Assemblée générale de l'ONU se réunira lundi à l'occasion des 3 ans du conflit. Et puis dans ce contexte, Washington espère toujours décrocher un accord sur les minerais stratégiques de l'Ukraine en échange d'un soutien américain. Mais d'après une source citée par l'agence France-Presse, Volodymyr Zelensky ne serait pas prêt à signer cet accord dans sa forme actuelle. Le président ukrainien, qui a déjà Anne Verdaguer rejeté une première version du projet.
L'accord original avait été présenté début février par Donald Trump et porté sur un accès à hauteur de 50% aux minerais stratégiques du pays. Proposition vertement rejetée par le président ukrainien qui réclamait notamment des garanties de sécurité pour son pays afin d'empêcher toute nouvelle incursion russe après un éventuel accord de paix. Depuis, les tensions se sont fortement accrues, Donald Trump accusant son homologue ukrainien d'être un dictateur tout en l'écartant des discussions et en amorçant un brusque rapprochement avec la Russie. Aujourd'hui, cette question de l'accès aux minerais situés dans le sol ukrainien est un levier essentiel dans les prémices de ces négociations de paix. Un accord pourrait rapporter jusqu'à 500 milliards de dollars aux États-Unis, selon des déclarations à la Maison-Blanche. L'Ukraine possède d'importantes ressources en lithium et en titane qui sont essentielles pour les technologies de pointe, notamment l'aérospatiale et les véhicules électriques. Les États-Unis en ont cruellement besoin face à un rival chinois qui contrôle aujourd'hui la très grande majorité de la production des terres rares. L'administration Trump estime qu'un accès à ces ressources permettrait aussi de compenser en partie les États-Unis pour l'aide militaire et économique déjà fournie à l'Ukraine.
Les précisions d'Anne Verdaguer. Puis toujours aux États-Unis, la forte chute de Wall Street hier. La bourse américaine qui a vu le Dow Jones décrocher de plus d'1%, l'indice Nasdaq plonger d'un peu plus de 2%, signe d'une inquiétude croissante sur la santé de l'économie américaine. C'est donc potentiellement la fin, Claire Fage, de l'euphorie post-élection de Donald Trump.
L'envolée de Wall Street s'est interrompue brutalement vendredi avec la plus forte baisse des valeurs vedettes et de celles de la tech depuis 2 mois lors de l'incident boursier lié au chinois DeepSeek et à ses performances dans l'IA. Plusieurs rapports alimentent l'inquiétude sur la première économie mondiale en perte de vitesse. La confiance des consommateurs américains s'est fortement dégradée en février. Déjà confrontés au coût élevé du crédit, ils craignent une augmentation des prix liée aux taxes sur les importations décidées par Donald Trump, sans compter les milliers de suppressions d'emplois publics, ce qui se traduit déjà par un ralentissement des ventes de détail et un coup de frein des ventes d'immobilier, moins 5% en janvier. Ce mois-ci, l'activité dans les services s'est contractée pour la première fois depuis 2 ans, tandis que les industriels voient déjà augmenter leurs coûts opérationnels, fournitures et salaires. L'enthousiasme créé par un Donald Trump qui s'affichait comme très pro-business semble donc s'évanouir dans les milieux d'affaires. Sa politique protectionniste revient comme un boomerang sur l'économie américaine, également lestée par les incertitudes géopolitiques.
Les explications de Claire Fage. Le pape François ne dirigera pas demain la prière de l'Angélus. Il entame sa 2e semaine d'hospitalisation pour une pneumonie des 2 poumons. Le Vatican indique seulement ce matin que le pape François s'est bien reposé. L'un de ses médecins affirme toutefois qu'il n'est pas hors de danger. La fin ce soir du 75e Festival international du film de Berlin, L'Ours d'or, sera remis dans 1 heure, un peu plus, par le jury du cinéaste américain Todd Haynes. En sport, 2 nouvelles médailles pour le biathlon français au championnat du monde en Suisse, l'or pour le relais féminin et la